Radio Prévert.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de la Team Prévert. Aujourd'hui, avec les élèves, nous recevons dans le studio un dessinateur, Yas Munasinghe. Yas, né au Sri Lanka il y a une trentaine d'années, et il suit sa famille qui fuit la guerre civile qui causera la mort de plus de 70 000 personnes. Et alors qu'il n'est encore qu'un enfant, il arrive à Autun, sa ville d'adoption. Et il suit alors un parcours scolaire qui l'emmènera jusqu'à l'école des Beaux-Arts, puis à l'école Media Art Fructidor de Chalon. Et passionné par le dessin et la bande dessinée, il s'oriente vers ce 9e art et est l'auteur de plusieurs albums. Cependant, Yas a pris des chemins de traverse et malgré sa formation très classique, il s'intéresse beaucoup au street art, d'où la production de fresques murales. Yas est déjà l'auteur de plusieurs bandes dessinées, dont les deux plus récentes sont Retour en Autunois et qui a fait un carton, et Alpha Omega qui vient tout juste de sortir, c'est encore tout frais. Et en même temps, il publie sur Internet un feuilleton en bande dessinée, Paul sans emploi, à travers laquelle un échange s'établit avec ses lecteurs, on en reparlera. Et Yas est présent dans notre studio pour nous parler de son actualité, mais aussi du métier d'artiste et de ses activités annexes, comme l'association Hibou Art, qu'il vient de fonder pour rassembler des artistes locaux. Voilà. Bonsoir Yas.
Bonsoir.
Et pour lui poser des questions, plusieurs élèves sont également présents autour des micros. On a Romain. Bonsoir Romain.
Bonjour.
Et puis Théo.
Bonjour.
Bonsoir Théo. Bien, pour commencer cette interview, je crois que c'était Romain qui avait préparé une question.
Bah oui, parce que vous avez dû subir un drame durant dans votre enfance. Vous avez dû fuir le Sri Lanka dans des conditions sans doute traumatisantes. Est-ce que cette partie de vous-même transparaît dans vos œuvres? Si oui, comment?
Alors, c'est une très bonne question. Moi, je n'ai pas vécu la guerre comme les adultes pouvaient le vivre. Je suis parti, à l'âge de 10 ans. Nous étions pas sous les bombes, si vous voulez. Nous étions évidemment exposés à cette violence qui est causée par la guerre civile au quotidien, parce que il faut savoir qu'il y a eu des suicides, des kamikazes, c'était assez régulier comme événement, comme traumatisme. Disons que non, nous avions été assez préservés par nos parents, nos proches. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis artiste aujourd'hui, je pense. J'ai envie de le raconter, mais je me sens toujours pas assez prêt pour évoquer ce sujet-là. Même si, en fait, tout ça, en fait, quand nous le vivons de l'intérieur, ce n'est pas aussi dramatique qu'on peut le penser. C'est quand on prend du recul que ça en devient tragique. À l'époque, nous étions habitués, en fait, nous étions baignés dans la guerre. Donc, pour nous, c'était normal.
Merci.
Théo, tu avais une seconde question pour Yas.
Oui. Comment en êtes-vous venu à la bande dessinée? Quels étaient vos dessinateurs préférés à notre âge?
À votre âge, vous avez quel âge?
13 ans.
13 ans. Alors moi, ce qui m'a amené à la bande dessinée, c'est assez étrange. Déjà au Sri Lanka, vous savez qu'au Sri Lanka, en fait, la bande dessinée existe, mais pas autant qu'en France. Donc c'est une bande dessinée plutôt pour adolescents, pré-adultes, sous forme de magazine. Mais j'étais déjà intéressé par ça quand j'avais 7-8 ans. Je lisais déjà des bandes dessinées. Mes parents n'étaient pas trop d'accord, puisque c'était pas vraiment les enfants qui étaient visés par la bande dessinée là-bas. Ensuite, arrivé en France, j'ai vraiment l'impression que la bande dessinée me poursuit depuis toujours. Il n'y a pas eu de déclic. Je n'ai pas découvert la bande dessinée. J'ai toujours eu l'impression de connaître la bande dessinée, d'aimer ça. Mais évidemment, quand j'avais 13 ans, 14 ans, c'était la vague des Dorothée, Club Dorothée, les Dragon Ball Z. Alors évidemment, les mangas, ça a beaucoup influencé mon trait. Mon style graphique d'aujourd'hui. Mes auteurs préférés, c'est, disons que ils sont un peu dans, c'est des auteurs de manga un petit peu, et puis aussi des comics. Pas beaucoup de, d'auteurs français.
D'accord.
Franco-belge, on va dire. C'est pas ça qui m'a vraiment attiré dans la bande dessinée.
Par exemple, alors.
Alors, en manga, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Taniguchi, l'excellent Taniguchi, donc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, hein, finalement, mais à l'époque, bon, je vous parle pas de Dragon Ball Z, tout ça, enfin, vous connaissez Dragon Ball Z. Mais bon, je peux pas dire que ça a vraiment influencé mon style. Et ensuite, les auteurs comics comme Chris Ware, Daniel Close, ou encore celui qui a fait Black Hole, Burns, Charles Burns. Ça, c'est des auteurs comics, ouais, on peut dire underground un petit peu, qui parlent en fait des histoires un peu moins commercial, enfin c'est des histoires qui sont pas faites pour plaire non plus au grand public, c'est des histoires qui racontent un petit peu les drames de la vie, de la, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses un peu plus en bande dessinée qui parlent des choses un peu plus profondes, on va dire.
Moins comique quoi, moins drôle, moins humoristique, moins dans l'esprit d'envie de rire. Et plus pour parler de choses sérieuses et voire pour pleurer, réfléchir.
Alors l'humour existe beaucoup. Justement.
Ou l'humour noir.
Oui, c'est peut-être un humour un peu plus caricaturé, ironique. Oui, en effet, oui. Donc ça m'a beaucoup plu puisque évidemment je connais Tintin, Astérix et Obélix comme tout le monde, mais moi je pense que la bande dessinée permet de faire autre chose. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse quand j'en fais. Et je suis pas un grand fan de la BD hein, d'ailleurs. Mais j'en fais depuis toujours.
Romain ?
Oui, j'avais d'autres questions. Comme par exemple, pourquoi avez-vous décidé d'être dessinateur ?
Alors oui, je pense qu'en fait, je suis avant tout dessinateur avant d'être auteur de bande dessinée. Et c'est bien que vous relevez cette nuance. C'est que moi, je me considère avant tout comme dessinateur. Et ensuite, par le fait que je sois dessinateur, évidemment, je suis attiré pour raconter des histoires. C'est parce que je suis dessinateur que j'ai choisi la bande dessinée, puisque ça reste quand même un médium parmi tant d'autres. Raconter une histoire, on peut le faire à travers le cinéma, à travers, enfin, il y a ce qu'on veut, à travers des fresques, l'écriture. Alors, pourquoi dessinateur, c'était ça la question? Pourquoi j'ai choisi le dessin plutôt qu'un autre médium?
Oui.
C'est une bonne question que je me pose tous les matins en me levant aussi. J'ai l'impression que ça aussi, en fait, le dessin m'a toujours... enfin, j'ai jamais eu l'impression de choisir. C'est ça qui est... C'était pas un choix. J'ai toujours dessiné, c'était comme ça depuis tout petit, voilà. Donc j'ai peut-être de la chance puisque j'ai jamais eu besoin de m'orienter dans autre chose. Quand j'étais, en fait, vous êtes au collège, en fait, à la sortie du collège, j'ai demandé à la conseillère d'orientation, je veux faire de la bande dessinée. Et à l'époque, on m'avait gentiment rappelé que ce n'est pas un métier. Donc, il a fallu chercher par moi-même. Il y a des très bonnes écoles, quand même, heureusement, qui existent, même dans la région. En Bourgogne, il y a des écoles, en fait, où on peut s'épanouir, dans la bande dessinée, même si c'est pas spécialisé comme Angoulême, évidemment. Vous connaissez Angoulême, non ?
Oui.
Le festival vient de se terminer.
Voilà.
Pourquoi faites-vous des dessins en noir et blanc ? Voilà.
Alors, oui, parce que le noir et blanc, j'ai l'impression que... en tout cas, moi, j'ai été attiré vraiment par le noir et blanc pour sa force. Là, en fait, graphiquement, je trouve que le noir et blanc permet de dire beaucoup de choses et ça correspond mieux au thème que j'aborde, j'ai l'impression. Et aussi parce que je suis nul pour faire de la couleur. Ce n'est pas mon truc. Je n'arrive pas, en fait, à faire de la couleur. Donc, à un moment donné, il a fallu que je m'arrête et que je me dise, bon, non, tu es destiné à faire du noir et blanc. Mais surtout parce que le noir et blanc, je pense que permet de tout dire d'une autre façon, certes, mais... Le noir et blanc, voilà, c'est encore une fois, ça me fascine, moi, cette histoire-là. Jouer avec le blanc, le noir, et puis faire apparaître des formes, et puis ensuite, ça raconte des histoires, c'est magique, non ?
Oui.
Théo, tu avais une nouvelle question ?
Oui. Qu'est-ce qu'une formation classique comme la Beaux-Arts vous a apporté dans votre manière de dessiner?
Alors,
les Beaux-Arts.
Les Beaux-Arts? Ce que les Beaux-Arts m'a apporté, on va dire qu'en fait, oui, c'est un cursus académique qui m'a beaucoup apporté d'un point de vue technique, déjà, dans un premier temps. Même si j'ai dessiné avant, les Beaux-Arts m'ont permis de structurer en fait ma technique, de savoir en fait, parce qu'il y a des règles pour savoir dessiner, et comme tout, ça s'apprend. Il faut un peu de, il faut être passionné évidemment, mais ça s'apprend comme tout, comme tous les métiers d'ailleurs. Les Beaux-Arts m'ont permis de travailler plusieurs disciplines. Aux Beaux-Arts, on fait pas que du dessin, contrairement à ce qu'on croit, et on en fait très peu finalement. Et c'est pas plus mal, parce que en fait, il faut voilà, en fait aux Beaux-Arts, on apprend à regarder, à observer. Et ça, c'est très important quand on est dessinateur, puisqu'avant de dessiner, il faut observer, il faut saisir l'objet qu'on représente, il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'en fait, le dessinateur, ce n'est pas simplement un... Enfin, moi, je ne le conçois pas comme un technicien du dessin. Le dessinateur, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui appréhende le monde à sa façon, avec son trait, avec ses lignes, et puis sa touche personnelle. Les Beaux-Arts, c'est le lieu où on prend conscience de tout cela. On n'est pas obligé de passer par les Beaux-Arts. Beaucoup de personnes s'en sortent très bien. Et on ne devient pas artiste parce qu'on est passé par les Beaux-Arts. Mais par contre, ça ouvre des portes et puis ça permet aussi d'explorer plein de choses. La sculpture, la photographie, le cinéma, l'histoire de l'art. Toutes ces choses qu'on aurait mis plus longtemps peut-être à apprendre si on n'est pas passé par les Beaux-Arts. Voilà. Et ma Afrique Tudor à Chalon, une très bonne école qui m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. L'école d'art, c'est aussi une philosophie, c'est une vision de la vie aussi qu'on nous apprend, même si on n'est pas obligé d'adopter ce que les professeurs nous demandent d'adopter, hein. Heureusement. J'espère que avoir été clair, ça va?
Oui, oui.
Oui. Les histoires racontées dans vos bandes dessinées sont très différentes. Entre Zark qui reprenait un thème mythologique de la louve secourant un enfant perdu dans la forêt et Retour en Autunois qui raconte le retour d'un jeune adulte dans sa ville natale, Autun. Après un reportage photo au Sri Lanka, on navigue entre le fantastique et le réalisme, voire le récit autobiographique. Quel est le fil conducteur dans tout cela ?
Le fil conducteur, c'est le dessinateur, c'est moi, puisque les histoires sont écrites par les scénaristes. Voilà pourquoi, en fait, on passe d'un registre à l'autre, mais aussi parce que moi, j'ai la chance de sélectionner les scénaristes avec qui je travaille. Alors, pour Retour en Autunois, c'est Maxime Noyon. Pour Alpha Omega, c'est Nam Lok. Ne me demandez pas l'explication de Nam Lok, vous lui demanderez si vous avez l'occasion de l'inviter. Mais voilà, en fait, donc, c'est leur histoire. C'est mon dessin. Alors moi, en fait, j'ai choisi les histoires selon l'univers que j'ai envie de retranscrire. J'ai beaucoup de mal à rester sur un style. Donc évidemment, j'ai choisi des histoires selon mon humeur, selon les périodes. Donc voilà, en fait, c'est surtout ça. Parfois, j'ai envie de faire des décors. Donc je choisis des histoires où il y a plus de décors. Parfois, j'ai envie de faire de la science-fiction comme dans Alpha Omega, et bientôt peut-être une bande dessinée historique et puis l'autobiographie où là je serai scénariste et dessinateur à la fois. Je suis en train de le mettre en place, ça prend plus longtemps.
Et pour la BD qui est en cours, ce Pôle sans emploi, c'est un scénario de qui?
Alors ça c'est on va dire auto-fictionnel. Il y a un peu de vrai, un peu de fiction dans cette BD. Il faut savoir que ça sera des histoires courtes. Alors ici, c'est Paul sans emploi. C'est l'histoire de quelqu'un, en fait, qui sort de ses études et qui se retrouve sans emploi. Donc, qui va à Pôle emploi. Donc là, en fait, je joue plutôt dans le registre un peu des comics underground. En fait, ça reste assez noir, assez ironique. Les choses ne sont pas dites de façon claire. Tout est plus ou moins suggéré. Donc ça peut, enfin, ça peut, enfin, c'est pas tout plus. Enfin, je peux comprendre que les gens n'aiment pas, mais ça me permet aussi d'expérimenter en fait un style comme Chris Ware en fait le fait très bien. Non pas que je me compare à lui. Enfin, c'est quelqu'un qui m'inspire en tout cas. Où en fait on navigue des moments de sa vie qui nous ont marqués. On retranscrit cela avec un style épuré. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai envie d'atteindre, disons. Enfin, choisir les moments de sa vie qui nous ont marqués, essayer de les retranscrire. Et on n'est pas là en train de faire des prouesses techniques de dessin. Le dessin, en fait, il est juste là pour appuyer un texte, un scénario. Il n'est pas là, en fait. Je suis pas là, en fait, en train de dire, regardez, le dessin, il est beau. Je suis en train d'essayer de mettre au profit de l'histoire des dessins. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais l'histoire avant tout. Le dessin doit disparaître pour qu'à un moment donné, voilà, on soit plongé dans l'histoire. Alors que dans d'autres BD, c'est l'inverse qui joue aussi. Le côté graphique est très important pour en jeter, pour un petit peu retenir le lecteur. Un peu, ça dépend des volontés de scénaristiques, disons. Voilà, pour le sans-emploi, c'est juste une histoire courte, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres un peu comme ça. Théo?
Oui. Comment avez-vous travaillé pour Alpha Omega? C'est une écriture à quatre tout de même.
À quatre.
Ah oui, alors Alpha Omega, c'est une aventure assez étrange et fabuleuse à la fois, puisque en fait nous sommes quatre, un scénariste et trois dessinateurs. Je ne les ai jamais rencontrés dans la vraie vie. Nous nous connaissons pourtant depuis des années, mais à travers Internet. La première fois, c'était à travers un site de bande dessinée. En fait, nous postions chacun des planches. On appelle des planches, c'est des pages de BD. Voilà quoi, en fait, on s'est entendu, on a apprécié nos boulots, nos travaux respectifs, et puis voilà. C'est surtout, on doit en fait ce projet à Namlok, le scénariste. C'est lui qui est venu nous chercher par internet, par téléphone, qui nous a un petit peu harcelé, non, peut-être pas, mais donc c'est lui qui nous a regroupé autour de ses scénarios. Il avait envie que ce soit à nous qui les dessinions. Et ensuite, c'était une longue aventure, puisqu'il a, on, nous sommes aussi édités par une petite maison d'édition, Yale, que nous connaissions pas non plus. Donc, en fait, c'était que des échanges à travers des messages, Internet, téléphone, vers la fin. Donc, Jekyll, Zedero, Namlok et moi-même, Yas. Et finalement, on a réussi. Parce que c'était pas évident au départ. De penser que nous arrivions comme ça à un objet physique, concret, alors que voilà, tout s'est passé par des moyens virtuels, disons. Comme quoi, en fait, il y a aussi des bons côtés, puisque ça, on peut échanger, on peut travailler vraiment à distance aujourd'hui avec la technologie, c'est vrai. Il y a aussi des travers, mais il y a aussi des bons côtés. Nous pouvons vraiment aujourd'hui travailler de façon tout à fait correcte, puisque le scénariste, quand il m'a envoyé le texte, pour que moi je le dessine. Eh bien moi en fait je lui ai envoyé par exemple une photo des croquis et il me donnait sa validation. Donc c'est un peu comme s'il était à côté de moi. Avec je sais pas si je peux le citer Skype enfin tous ces médiums qui on a carrément voilà la caméra carrément, si on veut montrer quelque chose.
Et pour préciser, Alpha Omega, c'est quatre nouvelles fantastiques ou c'est un même récit
Alors,
où chaque histoire a un point commun les unes avec les autres?
oui, il y a un fil conducteur, si vous voulez, mais c'est quatre histoires différentes. Alors, j'imagine que Namlook, le scénariste, est un grand torturé, puisque c'est lui qui a imaginé toutes ces histoires. Et oui, c'est des histoires qui sont plus ou moins ancrées entre la réalité et puis. Et puis la nature, en fait, notre rapport à la nature, d'une part, notre rapport à la technologie. Donc, c'est des thèmes comme ça qui sont évoqués dans cette bande dessinée, en tout cas. Donc, c'est un recueil de quatre histoires avec un fil conducteur qui reste subtil, c'est vrai, qui n'est pas forcément clair à la première lecture. Mais il n'y a pas beaucoup de textes, vous l'aurez, enfin vous verrez. C'est avant tout graphique.
Entre cette interaction avec vos lecteurs via les réseaux sociaux et la création de Beaux-Arts, qui se donne pour but de fédérer des artistes locaux, j'ai l'impression que vous croyez aux vertus du dialogue et du travail collectif. Cela va un peu à l'encontre du cliché qu'on se fait de l'artiste travaillant tout seul dans son atelier, non?
Ah oui, ah, c'est très bonne question encore une fois, oui. Enfin, c'est plus un constat qu'une question d'ailleurs. Oui, en fait, moi je crois encore que, enfin, je crois vraiment que le dialogue, le partage, le travail collectif est vraiment important pour même dans des travaux artistiques. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie qui apparaît de l'échange, du partage. Après, il faut bien distinguer travaux collectifs de comment dire de la création création solitaire, on va dire. Quand je fais de la bande dessinée, au moment où je dessine, évidemment, je suis tout seul. J'ai pas envie d'être dérangé. Alors que c'est pour ça que je choisis parfois des travaux un peu plus collectifs, des fresques murales, etc. Où là, en fait, on peut vraiment partager avec l'autre, où on n'est pas obligé d'être concentré. Donc, en fait, les deux, c'est aujourd'hui, en fait, il y a le cliché de l'artiste solitaire qui travaille tout seul dans son atelier. Et ça, en fait, c'est nécessaire. Moi-même, je prends le temps d'être m'isoler quand je veux travailler tout seul, etc. Mais sauf qu'après, évidemment, il faut le montrer. Enfin, ça, c'est ma démarche. Ensuite, j'essaie de le partager aussi avec d'autres. Ma première exposition, j'avais déjà fait une fresque en public. Et c'était pas évident. Puisque, en fait, quand on ne sommes pas habitués à travailler en public comme ça, bah, évidemment, la concentration n'est plus. On met beaucoup plus de temps à faire les choses. Les deux sont importants. Il faut savoir s'isoler par moment. Et ça, je le fais régulièrement, c'est qu'on coupe tout et on se concentre sur le boulot. Et une fois que c'est fait, là, en fait, il faut le partager. Là aussi, on a besoin de l'énergie de l'autre. On a besoin des autres aussi, parce que sinon c'est trop difficile, la création. On a besoin que d'avoir des points de vue, des regards, et puis de pouvoir donner aussi, ça nous fait du bien.
Très bien. Bien, bah merci Yas pour cette belle
Merci à
rencontre.
vous.
Nous continuerons de vous suivre parce que c'était une rencontre qui s'est avérée riche. Puis votre actualité est assez chargée également. On suivra également, on en reparlera, mais la programmation d'Atelier La Rue à laquelle vous participez.
Bien
Voilà,
sûr,
donc
ouais.
ça fera partie d'une des prochaines émissions. Il est possible de savoir plus de choses concernant votre actualité en se rendant sur votre site personnel, yasmunasinghe.com. Et on peut également liker vos pages Facebook, qu'il s'agisse de votre profil, donc Yas Munasinghe,
Ouais.
ou bien des pages dédiées à vos deux derniers albums, donc Retour en Autunois, il y a une page qui est dédiée, et puis Alpha Omega.
Voilà.
Voilà. Et puis on a Antoine qui est à la technique, qui a également des informations à nous faire passer si vous voulez réécouter l'émission.
Alors, on m'entend? Ah ben moi je m'entends pas, c'est bien. Donc je voulais simplement vous informer que si vous souhaitiez réécouter cette émission de la Team Prévert, il allait être possible de la réécouter donc à partir de 17h au cours des semaines suivantes, ou bien en vous rendant sur le site de la radio, radioprévert.com, pour la réécouter en différé. Radio Prévert dispose également d'une page Facebook, n'hésitez pas à la liker et à la diffuser parmi vos réseaux. Vous pourrez alors bénéficier de photos, de nos enregistrements. Il vous est également possible d'y poster des messages comme vos commentaires ou bien vos questions à Yas, par exemple, nous n'hésiterons pas à les faire suivre. La semaine prochaine, nous tenterons un direct avec Londres, puisque les élèves de 4e seront en voyage scolaire avec leurs professeurs. Ils nous raconteront leur séjour depuis là-bas. Prenez note du rendez-vous dans vos agendas. À jeudi prochain, bonsoir les jeunes.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.